Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir sollicité pour venir parler ce soir. Et donc, comme cela a été un petit peu annoncé, je vais parler du travail d'une artiste qui s'appelle Batia Sutter, qui va faire l'objet donc, de l'un des numéros de la revue Faire que Sacha vient de présenter, et qui est un des objets, en fait, surtout présents dans l'exposition comme matière signe, enfin, du moins, l'un des travaux principaux de cet artiste, à savoir le livre parallèle Encyclopédia, dont je vais parler de manière plus détaillée, et l'un des objets qui est inclus à l'exposition. Batia Sutter, c'est une artiste qui collectionne des images et qui travaille avec ces images trouvées. Pour entrer dans le vif du sujet, on peut tout simplement regarder la double page de Parallèle Encyclopédia que vous voyez là. Moi, il se trouve que d'une manière générale, je m'intéresse principalement dans mes recherches d'historien de l'art aux publications d'artistes et par ailleurs à la circulation des images, aux pratiques d'emprunt d'images, d'images trouvées. Alors quand des artistes font des publications d'artistes essentiellement faites avec des images collectées et remises en circulation, évidemment je suis très content. Ça opère une sorte de fusion de mes principaux centres d'intérêt. Et donc c'est le cas avec Batia Sutter. Parallèle Encyclopédia, c'est un épais volume de plus de 500 pages, 592 pages exactement, qui est composé de plusieurs milliers d'images agencées selon des principes de montage tels que vous voyez ici, et d'images qui, a priori, n'ont rien à voir, on pourrait dire assez prosaïquement. Par exemple, donc, un combat de boxe, une reproduction d'un tableau ancien et un schéma. Certaines images accompagnées de légendes très précises, c'est le cas pour le combat de boxe. Il s'agit d'un combat entre Ezard Charles et Rocky Marciano, qui sont deux boxeurs des années 50, le boxeur blanc étant le premier à avoir remporté le titre de champion du monde de la catégorie poids lourd en le prenant au noir américain. Donc il y a un peu une histoire politique aussi derrière les combats de boxe qui nous sont montrés là. On a donc cette image sportive qui est accompagnée de la légende qui a accompagné l'image là où Batia Sutter l'a prélevée, dans un autre livre en fait. Et puis en face de cela, ce tableau, alors lui qui n'est pas accompagné de légende, donc on ne sait pas exactement ce qu'est ce tableau, qui en est l'auteur. Évidemment, des hypothèses sont possibles. Moi personnellement, j'ai vaguement essayé de le retrouver sans y arriver. Ça me paraît être un tableau qui n'est pas très éloigné de peut-être d'héritier de Rubens. Je ne crois pas que ce soit Rubens lui-même, mais ce qui est sûr, c'est que ça me paraît être un détail d'un tableau plutôt qu'une reproduction d'un tableau, du tableau en son intégralité. La manière dont les personnages sont coupés sur la partie gauche plaide pour cela. Et puis il y a ce schéma encore plus mystérieux, accompagné de la mention Fig 3, mais sans la légende auquel renvoie ce renvoi, justement. Peut-être un schéma de champ de force magnétique ou quelque chose de cet ordre-là. Enfin, on reconnaît le registre des sciences et des techniques, en tout cas. Et donc, ces images, Batia Sutter est allé les prélever dans des sources imprimées préexistantes. Rien ne les relie de prime abord, si ce n'est le travail associatif, l'esprit et le regard associatif de l'artiste. Tout le principe de son travail en général et des livres dont je vais vous parler en particulier est justement de venir fixer ces associations d'images, comme on peut parler d'associations d'idées, de venir les fixer par le principe de la mise en page et puis le principe de la reliure du livre qui vient arrêter un ordonnancement des images et qui vient rendre efficient ou opérant ces associations d'images au-delà de l'esprit de l'artiste ou au-delà de sa table de travail et de son atelier, en les rendant tangibles et manipulables, consultables par un lecteur, un spectateur et un lecteur. Ce qui se produit dans Parallèle Encyclopédia et dans l'ensemble du travail de Batia Sutter en règle générale, c'est que les images ne fonctionnent jamais seules. Elles sont choisies pour leurs propriétés iconiques, ce qui les caractérise en tant qu'images, mais toujours en vue de fonctionner avec d'autres images, on pourrait dire à la puissance d'autres images, au sens mathématique du mot puissance. Il ne s'agit pas de proposer des images autonomes, mais plutôt des environnements iconographiques où chaque image devient le prisme de lecture de celle qui est située à proximité ou constitue une espèce de biais dans l'interprétation de celles qui sont à proximité. Alors, je ne vais pas me livrer à ce genre d'exercice pour toutes les doubles pages que je vais vous montrer, mais c'est un peu ce à quoi devrait se livrer le lecteur idéal de Parallèle Encyclopédia. Ici, il me semble qu'il y a une sorte de dramaturgie qui s'installe entre la photographie sportive et la reproduction du tableau ancien, où simplement l'orientation des corps donne l'impression que ces personnages, jeunes personnages imberbes et vieux sages barbus situés sur la page de droite, deviennent les spectateurs du combat de boxe. Il y a la tension du combat de boxe qui semble rejaillir sur le visage de ces personnages, ou qui en tout cas peut devenir un élément d'interprétation de leurs expressions. Et le schéma, lui, reste toujours aussi mystérieux, mais il pourrait être soit la représentation de l'onde de choc de ce gros violent crochet qui est imposé à l'un des deux boxeurs, ou peut-être une schématisation de façon encore plus abstraite de cette double page, tout simplement, et du principe du livre, avec des champs de force qui s'opèrent autour d'un axe vertical qui est celui de la reliure. Donc si on commence par le début, à savoir la couverture, comme je vous le disais, c'est un épais volume. Je les ai également ici, les livres, si vous voulez jeter un coup d'œil après. Couverture bleue pour Parallèle Encyclopédia numéro 1, puisqu'il y a eu un numéro 2. Le livre a été publié en 2007, retiré en 2009, et le second volume a été publié en 2016 ou 2017, 2016, donc il y a peu de temps. Ce que je vous montre là, c'est le Parallèle Encyclopédia 1, avec donc ces milliers d'images qui appartiennent à des registres qui peuvent être aussi bien artistiques, scientifiques, techniques, historiques, géographiques, montés sur un principe d'atlas, de constellation, je vais revenir sur ces termes, selon des associations qui peuvent être typologiques, formelles ou narratives. Sans qu'aucune de ces logiques-là, la typologie, les associations formelles ou les liens narratifs, ne soient maintenues sur des séquences trop longues. C'est-à-dire que ce qui caractérise le montage de Batia Sutter, c'est plutôt le fait de combiner ces trois logiques-là, au moins ces trois logiques-là. Et donc les images en question proviennent de livres de seconde main qu'elle collectionne, des livres qu'elle achète au puce, qu'elle commande sur Internet, qu'elle trouve abandonnés dans la rue parfois, des livres qui lui sont donnés. Et donc en fait elle a une iconothèque, c'est vraiment une artiste iconographe, mais qui est logée dans sa bibliothèque de travail en tout cas. Donc tous les livres, en tout cas les livres qu'elle utilise pour son travail, sont des livres qu'elle acquiert uniquement en raison des images qu'elle y trouve. Parfois elle intègre à sa bibliothèque, iconothèque, un livre pour en raison d'une image qui va l'interpeller. Et cet ensemble de milliers, enfin dizaines de milliers d'images, je pense, est la base de l'ensemble de son travail. Si je me concentre plus particulièrement sur Parallèle Encyclopédia, c'est que c'est à ce jour son travail le plus conséquent, aussi le plus représentatif d'une certaine façon, qui rend compte de manière très manifeste de sa manière de travailler et du type d'objet qu'elle produit. C'est un ouvrage qu'elle n'a pas réalisé seule, c'est important de le dire dès le départ. Elle est pleinement responsable de la collecte des images, de leur choix, du montage des images, mais le livre a été designé avec Roger Willems, qui est donc un designer graphique néerlandais, qui est également l'un des cofondateurs d'une maison d'édition qui s'appelle Roma Publication, qui est l'éditeur de ce livre, et des autres livres que je vais brièvement vous montrer aussi. Roger Willems a un rôle assez central dans ce que sont ses livres du point de vue matériel. C'est lui qui est essentiellement responsable, même si c'est évidemment en discussion avec Batia Sutter, du choix du format, du choix du papier, des choix graphiques et typographiques de tout le paratexte, la couverture du livre, les index qui accompagnent les images, ce genre de choses-là, et qui sont des choix qui concourent pour beaucoup à l'expérience qu'a le lecteur de manipuler une encyclopédie parallèle. Parallèle, on peut l'entendre en deux sens. C'est le parallélisme des images mises en relation, évidemment, mais c'est aussi une encyclopédie parallèle dans le sens où, tout en ayant un certain nombre d'attributs de l'encyclopédie, elle fonctionne très différemment de ce que sont les encyclopédies du savoir que l'on peut avoir l'habitude de consulter. Et cette limite entre la familiarité d'un objet qu'on peut reconnaître, dont on a l'impression qu'il appartient à ce genre éditorial de l'encyclopédie et qui en même temps se décale complètement, ne passe pas simplement par les choix visuels de Batia Sutter, mais également par la réalisation éditoriale et graphique. Donc du point de vue de ce qu'est le livre dans son ensemble, il y a une sorte de travail à quatre mains qui a été réalisé. C'est un travail édité, mais également un travail exposé. Ça, c'est une des caractéristiques du travail de Batia Sutter. beaucoup des projets donnent lieu à des allers-retours entre forme éditée et forme exposée, qui fondamentalement ne changent pas profondément ce que sont les propositions, mais changent la manière de les percevoir et de les appréhender pour le spectateur-lecteur, selon que le dispositif du montage et selon qu'elle utilise les images ou les livres directement. En gros, il y a plusieurs dispositifs qui se répètent dans son travail, soit l'utilisation des livres directement ouverts sur les pages où elle a choisi les images et qui peuvent faire l'objet d'un montage linéaire, comme c'est le cas ici dans cette installation en 2006, où en fait on a en quelque sorte le mimétisme de ce qu'est la séquence linéaire d'un livre mais déployée dans l'espace, et donc la temporalité de la lecture devient en fait le déplacement dans l'espace d'exposition. Et donc on retrouve les images qui sont par ailleurs dans la version éditée de Parallèle Encyclopédia, dans le même ordre, mais sous la forme d'un montage direct, d'un montage brut des documents originaux. Valéry Giscard d'Estaing, à la plage. D'autres dispositifs qui sont plutôt des vastes assemblages d'images reproduites au mur, où là on a quelque chose qui est entre la grille et la constellation d'images, où plusieurs types de lectures peuvent se produire. Une lecture normalisée ou conformiste, qui est une lecture linéaire de gauche à droite, de haut en bas, c'est-à-dire que l'œil se déplace en fonction des normes de lecture que l'on a intégrées en apprenant à lire. Mais dans ce type d'assemblage, très rapidement, il devient difficile de maintenir cette lecture-là et on est invité à des sortes de disruptions, de sauts, en ayant une lecture qui est plutôt circulatoire et en refaisant le montage par son propre regard. Ces allers-retours entre les œuvres éditées et exposées caractérisent Parallèle Encyclopédia. Elle a vraiment développé le projet au cours des années en explorant les deux voies, mais c'est également le cas pour un autre projet qui s'intitule Surface Series, qu'elle décrit comme étant une sorte de pop-up extrait de Parallèle Encyclopédia. C'est un livre et une série de pièces exposées qui explorent, on va dire, un motif récurrent dans Parallèle Encyclopédia, qui est celui des surfaces géologiques, géographiques, minérales, et de leur devenir abstrait ou des effets d'abstraction, notamment que ces surfaces peuvent avoir. Donc on retrouve dans ce livre-là, Surface Series, l'hétéroclisme des divers champs, registres de savoir ou d'activités humaines dans lesquels les images sont puisées, mais dans un montage qui, cette fois-ci, est moins sur le principe d'une constellation. Il y a une image par page ou par double page, et le montage ne se fait pas dans l'espace des pages et double pages, mais plutôt dans l'espace du livre, simplement du fait de l'ordre qui leur est donné. Et donc, en réfléchissant aux versions exposées de ce travail-là, elle a mis en place cette version, alors qu'elle appelle Table Selection. On revient à la table, comme quoi ce n'était pas du tout calculé, mais c'est le motif récurrent de la soirée, peut-être. Je ne sais pas si c'est véritablement une table, dans le sens où c'est une table basse, déjà. C'est un plan horizontal qui est quasi très légèrement surélevé par rapport au sol. Il n'est pas prévu qu'on puisse s'asseoir autour. Je pense que ça exclut le fait que ce soit une table, en fait. Une table, c'est quelque chose autour de laquelle on peut s'installer, de mon point de vue. Là, ce n'est pas vraiment le cas, mais on peut circuler et regarder. Et sur ces tables-là, c'est à nouveau le montage de type constellation d'images, c'est-à-dire des images qui sont liées chacune à plusieurs autres images par de multiples relations possibles, en dehors d'une grille fixe ou d'une grille orthogonale. Mais elle a également présenté Surface Series sous cette forme de la séquence linéaire, non pas avec les livres originaux, mais en reproduisant les images en grand format, pour venir les encoller directement sur la surface d'un lieu d'exposition. C'est toujours Culture Geste, en fait, au Portugal, mais quelques années après l'exposition que j'ai montrée il y a un instant. Avec évidemment ici un jeu qui se fait entre les rapports de surface et les effets de matière qu'il y a dans les images et ceux de l'architecture et des matériaux de construction du lieu. Alors à chaque fois, c'est le même travail et en même temps, c'est différent. Selon que l'on soit face à une séquence linéaire ou à un montage du type constellation atlas, ce n'est pas le même type de circulation du regard, tout simplement, et donc les mêmes associations d'une image à une autre qui vont être produites par le regardeur. Ce qui change aussi, c'est qu'une différence peut-être encore plus importante, c'est le fait de reproduire les images ou d'utiliser directement les livres. Quand elle reproduit les images, On est face aux images et elle seule. Quand elle utilise les livres directement, ces images sont prises dans un environnement matériel et paratextuel aussi, de légendes, de textes d'auteurs, de titres, etc., qui là aussi sont, enfin, deviennent un environnement et un biais pour la perception de ces images qu'on ne peut plus considérer uniquement pour elle seule et qu'on est obligé de percevoir dans, la réalité ou le contexte, disons, de leur support initial. Alors, ce type de pratique, ça c'est pas Batia Sutter, c'est Jules Massier, ce type de pratique iconographique s'inscrit dans une histoire justement de l'iconographie et des pratiques iconographiques qui concerne le champ de l'art mais qui est également plus large que le champ de l'art et qui est une histoire pluriséculaire. Et c'est assez intéressant de replacer le travail de Batia Sutter au regard de cette histoire élargie pour qualifier un peu plus précisément quelle est sa méthode. Il y a plusieurs logiques d'assemblage, comme je le disais tout à l'heure, qui se combinent dans Parallèle Encyclopédia. Et l'une de ces premières logiques, c'est celle de l'inventaire typologique ou thématique, du rapprochement typologique ou thématique des images, qui peut faire penser aussi bien à Jules Massier donc, qu'à un artiste comme Hans-Peter Feynman. Jules Massier, c'est pas un artiste, c'est un espèce d'humaniste savant du tournant 19e-20e siècle, un érudit en fait, disons, qui était également quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, un mécène, et qui s'est employé pendant une longue partie de sa vie, de 1885 à 1911, à collectionner des images qu'il a réunies dans des albums thématisés dans une espèce de logique encyclopédique, avec l'idée d'offrir un savoir visuel exhaustif sur les arts décoratifs dans tous les domaines, donc l'art des jardins, la couture, enfin les arts vestimentaires, la vaisselle, la menuiserie, les arts décoratifs de manière très large. Et son idée, c'était de venir pourvoir la bibliothèque des arts décoratifs à Paris avec ses albums pour offrir aux ouvriers, qui étaient censés être à l'époque les destinataires premiers de cette bibliothèque, un savoir visuel, un objet pédagogique démocratique et facilement accessible. Et donc, en fait, il collectait des images, alors parfois dans des sources très quotidiennes, pauvres, des revues telles que l'Illustration, par exemple, ou alors en collectionnant des gravures, des photographies. Il n'hésitait pas à tailler dans des gravures originales les images dont il avait besoin. Donc, il y a une approche très matérielle et complètement sauvage des sources qu'il a collectées. Et au total, il y a quelques milliers d'albums qui, chacun, ont entre 30 et 150 pages. Et qui sont, alors là par exemple, celui que je vous montre, c'est Accessoires de costume, les cannes et parapluies. Donc il y a un album de 38 feuillets autour de ce motif, donnant une sorte d'aperçu de ce qu'était l'état de l'art dans la construction de ce type d'accessoires, par la photo, la gravure, l'illustration de presse, sur une échelle géographique très large, puisque ça concerne en gros l'Europe, mais aussi l'Asie, le Japon particulièrement. Il y a une influence japonisante très forte dans cet album. Et le motif, en tout cas, typologique, est très clair. Et tous les albums sont faits comme cela, autour d'un sujet typologique à chaque fois clairement identifié. Plusieurs décennies après, en revenant clairement dans le champ de l'art, la typologie, c'est aussi l'inventaire typologique, ça a été la méthode d'Hans-Peter Feynman, artiste allemand qui est l'une des figures tutélaires de pas mal d'artistes aujourd'hui qui travaillent avec les images, et qui, en particulier au tournant des années 60 et 70, a publié toute une série de petites publications qu'il a intitulées Bild ou Bilder, donc c'est images au singulier, au pluriel en allemand, réunissant à chaque fois un certain nombre d'images. Le titre du livre, c'est toujours le nombre d'images, en fait. C'est des petits livrets très modestes, agrafés, reproduits en noir et blanc, dans lesquels on a par exemple 6 images de footballeurs, et on devine que c'est des coupures de presse. 11 images de paires de genoux féminins. Alors c'est toujours ou quasi systématiquement des images trouvées, cartes postales, photographies amateurs, coupures de presse. Parfois se glissent là-dedans des images d'Hans-Peter Feynman, mais sans qu'on sache jamais à quel moment. C'est-à-dire qu'il, quand il, pour compléter des ensembles par exemple, il produit lui-même des images, il les considère au même titre que des images amateurs et ne signale absolument pas, ne les revendique pas en tant qu'auteur. 12 images d'avions dans le ciel, et ainsi de suite. Alors, c'est des petits livrets dans lesquels il y a une sorte d'anthropologie visuelle ou d'archéologie visuelle du présent, enfin, du présent d'Hans-Peter Feynman il y a 50 ans, qui se produit. Il y a cette dimension, lui la revendique d'ailleurs pas outre mesure, mais c'est quelque chose qui ressort, cette sociologie ou anthropologie de l'image, des usages qu'on en fait, de comment elles sont véhiculées par la reproductibilité. Et Hans-Peter Feldman étant notamment tout à fait contemporain de l'essor très fort de la presse magazine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, en fait, qui définit son rapport à l'image. Et il y a aussi quelque chose de très chouette qui se produit dans ces publications qu'on ne voit pas bien quand on en montre des reproductions. C'est le fait que, justement, elles sont des reproductions d'images déjà reproduites, donc d'images qui n'ont pas du tout d'aura, mais en les déplaçant, en les retraitant tel qu'il le fait, il réinvestit dans ces images et dans la qualité de ces petits livrets, bien qu'ils soient pauvres, il réinvestit une sorte d'aura que ces images n'avaient pas au départ. Et il y a un truc assez magique, n'exagérons rien, mais d'assez étonnant qui se produit dans ce travail. Tout ça, Batia Suter le connaît, c'est des choses qui ont pu la nourrir, mais elle est très loin en réalité de la rigueur typologique qu'on a aussi bien chez Massier que chez Feldman, dans la mesure où très, très souvent les séquences typologiques ou thématiques de parallèles encyclopédia sont rompues par des associations formelles ou narratives qui vont justement faire éclater les typologies. Et c'est une des caractéristiques de parallèles encyclopédia que de venir un peu brasser et brouiller l'ordre du savoir. De ce point de vue, on peut plutôt penser à un autre livre d'Hans-Peter Feldman beaucoup plus récent, une série de livres en fait qu'il a publié depuis le début des années 2000. Tous les 2 ou 3 ans, il en réédite une version. Voyeur, 800 images qui proviennent de sa collection iconographique. Alors voyeur, on peut l'entendre en 2 sens. Le lecteur de ce livre est un voyeur au sens d'un regardeur, tout simplement. Et aussi un voyeur parce que ce sont des images dont le trait commun pourrait être de toucher au sensationnel, à l'exotisme, à l'érotisme aussi, tout simplement. Et là, on a donc la densité de mise en relation qui caractérise aussi pas mal de double pages de parallèles encyclopédia. Si ce n'est que là, le montage est le fruit, bon, d'abord d'une sélection d'un corpus d'images entre lesquelles Hans-Peter Feldman sait que des résonances vont pouvoir se créer, mais ensuite c'est une combinatoire fortuite en fait. Il compose les pages en fonction du format des images, de sorte à remplir les pages, en gros, un rapport de rentabilisation d'espace. De ce que j'en sais, il y a même des doubles pages qui ont été composées avec les images retournées sans véritablement qu'il les regarde. C'est vraiment des principes de composition et des rapports de format qui déterminent la mise en page. Et à chaque nouvelle version, justement, il utilise les mêmes images, mais redistribuées dans un ordre différent. La différence avec Batia Suter, c'est donc que chez elle, tout est au contraire méticuleusement calculé. Même si ce n'est pas toujours explicable, il y a toujours un choix intentionnel précis qui fait que telle image est à côté de telle autre. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt Abby Warburg qui serait la grosse référence. Elle a découvert ce travail en cours de route pendant qu'elle avait réalisé le premier volume de Parallèle Encyclopédia. Abby Warburg, c'est un historien de l'art du début du XXe siècle, enfin fin 19e, début 20e, qui aujourd'hui exerce une grosse influence à la fois sur les historiens de l'art et sur beaucoup d'artistes, en raison plus particulièrement d'une partie de son travail, enfin d'un projet, on va dire, qui est l'Atlas Mnemosyne, qu'il a réalisé de 1924 à 1929, le moment de sa mort, et qui est une collection d'images qu'il présentait accrochées, comme vous le voyez ici, sur des panneaux noirs, des écrans noirs, disposés initialement dans sa bibliothèque, dans sa bibliothèque d'études, qui était une bibliothèque très, très conséquente, une bibliothèque personnelle, mais à vocation publique dès son vivant. C'était en fait cette collection d'images, le pendant iconographique de sa bibliothèque, justement. Et sur ces écrans sont mises en relation des images qui sont là aussi de nature assez différente, des reproductions d'œuvres, parfois faites directement par Abby Warburg, parfois collectées dans des publications, des arbres généalogiques, des timbres, des coupures de presse d'actualité, donc des documents très divers, associés de sorte à faire apparaître ce qu'il appelait des résurgences ou des réminiscences dans les images. Ce travail, en fait, il s'inscrit dans la continuité de 2 autres dimensions du travail d'Abby Warburg. Tout d'abord, pendant la Première Guerre mondiale, il a compulsé de manière quasiment maladive des images du conflit, parce qu'il essayait de documenter de manière exhaustive le conflit et surtout les effets du conflit sur la psychologie contemporaine. Et c'est ce travail de collecte un peu maniaque qu'il a poursuivi avec l'Atlas Mnemosyne. Et d'autre part, en tant qu'historien de l'art, vraiment, le début du travail d'Abi Warburg, au début du XXe, ça a été de chercher les sources antiques de l'art du Quattrocento italien, et donc de chercher des déterminations de l'art du Quattrocento dans l'Antiquité, selon un principe déterministe et d'affiliation, c'est-à-dire de chercher vraiment quelle était la source de telle ou telle œuvre du Quattrocento dans des œuvres de l'Antiquité grecque. C'est ce travail-là qu'il poursuit dans l'Atlas Mnemosyne, mais en s'émancipant de l'idée de filiation et de déterminisme. L'idée de rendre compte non pas d'effet de cause à effet dans l'histoire de l'art, mais plutôt d'affinité, du fait qu'il y a des représentations, certaines images, des motifs qui reviennent au fil du temps à travers les cultures et qui intéressaient Abi Warburg non pas parce qu'elles permettraient de rendre compte d'une progression de l'histoire de l'art, mais au contraire parce qu'au-delà d'une chronologie, elle lui semblait rendre compte de la psyché humaine, en fin de compte, de quelque chose qui aurait trait à la psyché humaine. Et c'est ça qu'il poursuivait, et qui est aussi justement un des moteurs du travail de Batia Sutter. Aussi bien dans le cas d'Abi Warburg que dans celui de Batia Sutter, ce qui a beaucoup été dit, et que je vais redire un petit peu, c'est le fait qu'il y a, par ces logiques d'Atlas, un brouillage de l'ordre du savoir. Il y a un historien de l'art qui s'appelle Georges Duberman qui a beaucoup étudier cette notion, idée d'atlas, et notamment en se référant à Abi Warburg, qui dit qu'un atlas, est une forme visuelle du savoir et une forme savante du voir. Alors, tout l'intérêt dans cette oscillation entre une forme visuelle du savoir et une forme savante du voir. Et cette approche permet de sortir un peu des récits canoniques, des catégories scientifiques ou théoriques héritées de la modernité, pour proposer des approches parfois plus intuitives. À propos de sa bibliothèque, Warburg parlait de bon voisinage. C'est aussi comme ça que fonctionnent ces images. C'est aussi comme ça que cela fonctionne chez Batia Sutter. Il parlait d'histoire de fantômes pour adultes également, ou pour grandes personnes, je crois, très exactement. L'intérêt de ces démarches-là, c'est effectivement qu'elles viennent offrir les images dans des agencements tels qu'on est invité à les comprendre, à les interpréter en dehors des déterminations habituelles ou de sous un jour renouvelé et en s'émancipant des catégories scientifiques qui d'habitude sont les cadres nous permettant de comprendre les images en les catégorisant, en les classant. Si vraiment on devait chercher une référence qui sera en affinité très proche avec Batia Sutter, ce serait peut-être plutôt l'album que l'artiste dada Anna Hoche réalise en 1933. Parce que là, c'est un travail d'artiste. Abi Warburg, il y a des motifs scientifiques, historiques derrière son travail qui ne sont pas du tout la finalité du travail de Batia Sutter. Mais il se trouve qu'Anna Hoche a réalisé un objet qu'on a découvert assez tardivement, enfin bien après, de façon posthume, qui est un collage, donc un répertoire d'images, qui là aussi proviennent de sources diverses, de sources imprimées déjà existantes, et qui font l'objet de montages à la fois globalement formels, mais avec des disruptions qui sont plutôt des associations d'idées ou des principes narratifs, et où se retrouvent mêlées l'ethnologie, l'ethnographie, la géographie, l'industrie contemporaine, dans une sorte d'encyclopédie personnelle, dont on ne sait pas bien, faute d'avoir des sources premières pour en témoigner, si elle a fait ça comme étant une boîte à outils pour réaliser des collages, qui était par ailleurs sa pratique principale, ou si c'était en soi un objet résultant d'un montage conscient. Enfin, manifestement, il y a un montage qui est conscient, mais si elle a conçu ça comme un objet autonome. Voilà, il se trouve qu'il y a certains collages d'Anna Hoche dont on peut s'apercevoir qu'effectivement, ils ont leur source dans cet album, leur source iconographique dans cet album. Alors j'en reviens à Batia Sutter après ce petit détour par l'histoire. Le renversement, le brouillage, ou la redistribution plutôt des catégories de savoir qui sont en jeu chez Warburg ou chez Anna Hoche se produisent aussi dans le cadre de Parallèle Encyclopédia. Sur cette double page-là, on voit des cristaux de neige, des micro-organismes marins et des objets archéologiques associés en fonction d'un rapprochement formel, formaliste même, relativement évident. Il y a à la fois une évidence justement dans les associations de formes qu'elle fait, et un écart radical entre non pas ces images mais les catégories de connaissances ou les activités auxquelles elle se rattache. Et l'un des principaux intérêts de Parallèle Encyclopédia, c'est d'offrir cette redistribution justement, ou une chaire dans une cathédrale, je crois que c'est à Bologne, est mis en relation avec une plateforme pétrolière. Non pas tant parce qu'il y aurait une véritable, un lien d'affiliation ou d'une communauté architecturale ou structurelle évidente entre ces objets, mais plutôt parce que l'effet qu'ils produisent, à travers leur reproduction photographique, en tout cas l'effet qu'ils produisent sur nous, qu'ils ont produit sur elles du moins, est analogue et similaire. Des figurines archéologiques précolombiennes, l'homme qui marche sur la lune, une étendue d'herbe aux États-Unis avec des animaux, et puis une pièce de Robert Morris, deviennent là aussi associables par des principes d'association d'idées. Ce qui est loin d'être complètement farfelu, par exemple, dans ce cas-là, si on prend comme point d'entrée, par exemple, la reproduction du travail de Robert Morris, ou bien il y a d'autres doubles pages sur ce principe-là, où il y a des reproductions d'œuvres de Land Art avec le même type d'images liées à la conquête spatiale et à l'archéologie qui sont rapportées. Bah, le lien entre Land Art, archéologie et conquête spatiale, il est avéré en fait, dans l'histoire de l'art. C'est vraiment quelque chose qui a nourri les artistes. Le Land Art est contemporain de la conquête spatiale et de l'homme qui pose le pied sur la Lune. Et ces artistes ont été pas mal aussi nourris de lectures plus ou moins rigoureuses de textes liés à l'archéologie. Et ça, c'est des choses qui sont documentées, disons. Donc il n'y a pas que des choses farfelues dans les rapprochements que réalise Mathias Hutter, mais c'est le fait de penser à partir des images plutôt qu'à partir des catégories de savoir déjà préétablies, qui va favoriser ce type de lecture croisée. Alors, cette redistribution de l'ordre du savoir, c'est ce qui frappe en premier quand on regarde par exemple l'encyclopédia. C'est ce qui a été beaucoup souligné à propos de ce travail et du travail de Mathias Hutter en général. En réalité, c'est pas la première chose qui guide la réalisation de ces œuvres. Ce qui a été pour elle le point de départ de son travail, c'est plutôt une interrogation fondamentale ou primitive sur le pouvoir des images et ce qui fait qu'on est interpellé par les images. Et une interrogation personnelle au départ sur elle, Mathias Hutter, pourquoi elle est interpellée par telle image et non pas par telle autre image. Qu'est-ce qui fait qu'une image va accrocher son regard et surtout son attention, sa sensibilité, tout en remarquant que souvent, beaucoup de gens pouvaient être sensibles aux mêmes images, justement, ou indifférents aux mêmes images. Et par elle, l'encyclopédia, ça a été pour elle une sorte de laboratoire empirique pour essayer de comprendre cela, en manipulant un grand nombre et en essayant de mettre en relation celle qui avait la capacité de retenir son attention. Il y a deux choses qui, pour elle, qu'elle revendique ou dont elle parle volontiers à ce sujet-là. C'est l'idée du punctum chez Roland Barthes. Barthes dit que dans une photographie, il y a deux régimes de fonctionnement. Le studium, qui, alors je vais l'expliquer un peu grossièrement, mais qui est lié à l'intérêt qu'une photographie peut avoir du point de vue de la connaissance, justement, du point de vue de ce qu'on peut en penser de manière consciente ou savante. Et le punctum, il dit que c'est ce qui, dans une image, me poigne, c'est non pas l'intérêt qu'on projette sur l'image, mais c'est ce que l'image vient décrocher comme une flèche vers le spectateur, enfin vers le regardeur, qui souvent est un détail anodin, peut-être absurde, en décalage dans l'image, et qui va, comme cela, venir piquer la sensibilité. C'est ce type de choses que Mathias Hutter recherche dans les images qu'elle collecte, et qui pour elle, en fait, ont à voir aussi avec ce que le psychanalyste Carl Gustav Jung appelait les archétypes, c'est-à-dire un certain nombre de représentations qui seraient l'expression de la psyché humaine, là aussi. Carl Gustav Jung pensait qu'il y avait des motifs, des images, des représentations qu'on retrouve chez tous les êtres humains, qui sont non pas des images, des stéréotypes qui seraient transmis par l'éducation ou qui seraient, dont on hériterait, mais qui se reproduirait sans cesse et sans cesse parce qu'en raison d'une faculté biologique, disons, à produire un certain nombre de représentations fondamentales. Et c'est en cela qu'il les voyait, ces archétypes, comme étant l'expression d'une sorte d'instinct humain, comme on peut parler d'instinct animal. Et c'est ça aussi que Mathias Hutter recherche par cette accumulation compulsive et néanmoins méthodique des images qu'elle remet en circulation dans ses encyclopédies. Donc ces encyclopédies, puisque là je vous montre la deuxième, publiée en 2016, construite selon le même principe que le premier volume, mais avec deux différences majeures. Premièrement, l'irruption de la couleur, alors que le premier volume est totalement noir et blanc. et deuxièmement, l'irruption d'objets également, photographiés avec une espèce d'effet trompe-l'œil. Enfin, ils sont photographiés par-dessus les images, en fait, ce qui fait que la bidimensionnalité de la page et des images est perturbée. Précisément, son intention, c'était de venir perturber les images, les troubler ou les inquiéter en rapportant une autre forme de réalité parmi elles, des objets tangibles, des objets concrets, qu'elle a collectés au fur et à mesure de la réalisation de ce second volume, et qui à leur tour deviennent images, parce qu'elle s'est aperçue que la question qu'elle se posait sur le pouvoir d'interpolation des images pouvait aussi se poser vis-à-vis de beaucoup d'objets, fonctionnant un peu comme des talismans, ça c'est un terme qu'elle emploie, et son idée était donc de venir prolonger le questionnement qu'elle avait sur les images avec un certain nombre d'objets qu'elle fait devenir images, et où les objets viennent prêter main forte, disons, aux images pour nourrir cette réflexion sur... qu'est-ce qui fait que notre regard est interpellé ou ne l'est pas à un moment donné. Alors ces objets, là aussi, sont très divers. Ils fonctionnent de la même manière que les sources iconographiques. Il y a des objets naturels, des objets artificiels, un ballon de foot, un disque de tronçonne de disqueuse. Ouais, voilà. Parfait, super accord. Des bibelots, des bijoux, des pierres, un combiné de téléphone. Donc là, vous voyez la deuxième encyclopédie sous l'une de ses formes exposées. Et juste avant de conclure, en 5 minutes, les objets et l'objet devenant image, ou l'image au départ, est très clairement le sujet principal, le sujet et l'objet principal de cette pratique, qui néanmoins ne se passe pas du texte, en fait. C'est un travail qui parle de visualité, mais où le texte a une présence discrète et néanmoins importante et intéressante. L'occulté serait un peu simplifier le travail, ce qui s'est beaucoup produit pour Abi Warburg, par exemple, dont beaucoup de personnes sont tentées de dire qu'il a fait une histoire de l'art en images. C'est vrai, et en même temps c'est partiellement vrai, dans le sens où l'Atlas d'Abi Warburg, il a été pour lui le support d'une production écrite très conséquente. Énormément de conférences, d'articles, enfin, universitaires, qui se sont appuyés sur l'Atlas. Un projet de livre qui n'a jamais vu le jour et qui n'aurait probablement jamais pu aboutir, mais dont il existe néanmoins des états. Beaucoup de correspondances savantes aussi avec d'autres historiens de l'art. Donc il y a un pendant textuel de l'Atlas. Et chez Batia Sutter, il n'y a pas de pendant textuel parce que elle n'est pas historienne, elle est artiste. Et la finalité de son propre atlas n'est pas scientifique ou historique. Il n'y a pas de texte également parce que ce n'est pas son moyen d'expression. C'est quelque chose qui ne lui semble pas être quelque chose avec lequel elle est à l'aise ou elle arrive à communiquer des idées. Mais il y a néanmoins le texte qui est lié au fait qu'elle a un travail éditorial et qui est lié aux diverses sources dans lesquelles elle puise les images. Donc la première apparition du texte dans Parallèle Encyclopédia, c'est d'abord ce titre, en fait. Parallèle Encyclopédia, qui est la première chose qu'on perçoit du livre. Enfin, ça dépend comment on le découvre. Si on le découvre sur la table d'une librairie, on voit d'abord une couverture monochrome sur laquelle il y a une image qui est reproduite. Pareil pour Surface Series. Mais lorsqu'il est dans une bibliothèque rangée dans un rayonnage, on voit en premier lieu, c'est ce titre qui est très simple et qui a en même temps un pouvoir évocateur qui me semble très fort et qui donc est vraiment le type de titre qui fonctionne comme une clé de lecture ou comme quelque chose qui vient poser un cadre de réception pour le travail. Cette affirmation d'une encyclopédie parallèle vient mettre, je pense, le lecteur dans une certaine disposition pour la lecture de ces images. Donc le texte, il est d'abord à cet endroit-là. Il y a tout le texte qui fait qu'à un moment donné, des images deviennent livres en se mettant en livre avec un paratexte, c'est-à-dire une page de titre, un sommaire, un index, une pagination, le vocabulaire de l'édition, en fait. Et puis, il y a les légendes, surtout des images. Les images sont accompagnées de légendes quand elle les trouve avec des légendes, c'est-à-dire qu'elle prélève les images telles qu'elle les trouve dans les livres. Ce qu'elle reproduit, ce ne sont pas les livres, mais bien les images, c'est-à-dire que on ne voit jamais la matérialité du livre, soit elle utilise le livre directement dans les expositions, soit elle reproduit les images, mais elle ne reproduit pas les pages des livres qui constituent sa collection. Par contre, elle conserve en général les légendes quand les images sont accompagnées d'une légende directement dans leur espace, en fait, sous l'image ou au-dessus de l'image. Et pour elle, ces légendes sont très importantes, d'une part parce que Elles permettent de savoir ce que sont ces images. Elles sont dans diverses langues, mais même quand on ne parle pas la langue concernée, on arrive toujours à capter quelques éléments d'information importants. Et puis surtout, elles rendent compte justement des multiples destinations, enfin des multiples provenances plutôt, pardon, d'où les images proviennent. La variation de leur typographie, de leur police de caractère, de leur taille de police, de leur mise en forme, permet très vite de comprendre que tout cela provient de divers livres, de divers magazines, de divers journaux, et que ça a été découpé, collecté et republié. Donc c'est aussi une sorte de... À travers les légendes et leur diversité, il y a une sorte de mise en évidence ou de la méthode de travail. Par ailleurs, il y a dans pareil l'Encyclopédia 1, un supplément textuel qui est un petit livret écrit par Paul Elliman, qui a un montage textuel pensé comme une partition radiophonique, donc montage d'extraits de textes prélevés dans diverses sources, des journaux, des encyclopédies, des dictionnaires, des romans, des recueils de poésie. Et le livret en question, qui a été édité à l'occasion de du second tirage du livre en 2009, n'est pas en aucun cas une explication de parler de l'encyclopédia, c'est pas un commentaire, c'est plutôt un pendant textuel, c'est-à-dire qui exploite certains principes du travail de Batia Sutter dans un autre moyen d'expression qui est le langage. Donc, il y a un certain nombre de préoccupations, de motifs, de thématiques, disons, qui sont communs au supplément textuel et à l'encyclopédie, et puis surtout la pratique du montage, le fait d'avoir pensé l'écriture en termes de montage, d'un côté par des images, d'un côté par des extraits textuels. Donc l'idée est plutôt d'accorder deux objets l'un à l'autre dans la méthode et non pas d'en faire un supplément explicatif. Pour terminer, ce qui ressort de ça, qui me paraît important, c'est l'idée qu'on a là une artiste qui est une artiste éditrice. Alors non pas éditrice au sens où elle aurait la responsabilité d'une maison d'édition, mais au sens d'une anglo-saxon, d'une éditeur, disons, donc quelqu'un qui gère l'editing des images, donc d'images qui ont été au préalablement trouvées ou empruntées. J'aime bien l'idée d'images empruntées, parce que emprunter, ça suppose de rendre, logiquement, sinon c'est images volées plutôt. Et dans toutes ces pratiques-là, notamment celles enfin, dont j'ai pu parler ce soir, et celles de Batia Sutter en particulier, il y a vraiment cette idée que les images sont prises en vue d'être redistribuées, réadressées à un lectorat ou à un public, et que tout le travail consiste non pas à inventer les images, mais à prendre en charge une série d'opérations qui vont permettre de les rendre disponibles à nouveau. Il y a une idée de mise en circulation, d'accessibilité, mais qui surtout, à travers ces opérations-là, vont changer le sens des images ou vont offrir un nouveau cadre pour les interpréter. Et donc le fait d'emprunter, de collecter, de choisir, puis d'associer, de monter et de mettre en livre, et une chaîne d'opérations qui va permettre ce nouveau cadre de perception et de compréhension de ces ressources visuelles. Et c'est un ensemble d'opérations qui mettent vraiment l'artiste dans une position de productrice où elle n'est pas seule à l'œuvre, mais où en fait elle est l'élément chef d'orchestre peut-être d'un travail qui se fait à plusieurs mains avec des designers graphiques, avec des imprimeurs également, enfin avec tout un tas d'acteurs de la chaîne du livre. Et au-delà de la répartition des rôles entre artistes et designers graphiques et au-delà des conventions qui font que à notre époque, dans notre culture, on attribue la figure de l'auteur à une personne plutôt qu'à une autre. Ce qui me semble intéressant avec Parallèle Encyclopédia, c'est que c'est un travail qui rend manifeste le fait qu'il y a une intrication en fait entre les pratiques d'écriture, de design graphique et d'édition, et qu'il y a bien sûr des spécificités à ces trois expressions ou à ces trois termes, écriture, design graphique et édition, mais qu'en dépit de leurs spécificités, ce ne sont pas simplement des opérations qui seraient strictement distinctes les unes des autres et strictement successives les unes des autres, mais qu'elles se construisent mutuellement. Et là, en fait, on a une artiste dont l'écriture est visuelle et le montage visuel, et que c'est on s'aperçoit que cette écriture est en fait une activité multidimensionnelle, disons, dont le sens résulte non pas simplement de ce qui est montré, évidemment de ce qui est montré, mais aussi de la façon dont c'est montré, de la façon dont les choses s'énoncent et se mettent en circulation. Et l'ensemble donc de l'écosystème ou l'économie de ce travail implique simultanément, disons, la question de l'écriture, de l'édition et du design graphique, se répartissant entre plusieurs figures de créateurs que sont l'artiste, le designer graphique, l'éditeur et peut-être l'imprimeur aussi dans une certaine mesure. C'est l'un des principaux intérêts de Batia Sutter, si on le regarde dans le champ de la création contemporaine, me semble être cette démonstration en fait de l'intrication écriture, édition, design graphique. Et voilà, simplement, je conclurai là-dessus. Je vous ai spoilé une bonne partie de l'article, donc vous n'aurez pas nécessairement besoin de le lire. Mais en fait, non, il y a quand même tout un pan que j'ai laissé de côté, ainsi qu'un certain nombre d'anecdotes croustillantes que je réserve aux gens qui prendront un abonnement à faire. Donc là, c'est un vil argument commercial. Et quelques développements bibliographiques sensationnels, je vous l'assure, et pour lesquels vous avez besoin des notes de bas de page de la revue pour avoir l'aperçu complet. Mais j'espère, voilà, en tout cas, que ça vous donne un aperçu global de ce travail. Et puis, si vous voulez consulter ce qui est bien plus intéressant que de voir des diapositives, les deux volumes de Parallèle Encyclopédia et puis Surface Series, je suis derrière la table. On peut évidemment les regarder ensemble. Merci.